Maurice Chevalier se souvenait de Colette.
C'était en 1906. En 1906, au Casino Kursaal de Lyon. Je chantais, je remplissais la deuxième partie. Et fin de première partie, il y avait une pantomime par Georges Vague, le très grand mime de l'époque, dans laquelle paraissait Colette Willy.
Ça peut pas faire de mal.
Il y a un moment où on lui arrachait sa robe, et pour la première fois, sur une scène française, on apercevait une femme, la poitrine nue. Elle était très belle. Elle était très belle.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
C'est à Flers qu'un train cahoteur et pas pressé nous jette, nous abandonne, troupe ensommeillée, bâillant et géniarde, par un après-midi de beau printemps, acide, éventé de bises d'est. L'air libre fouette nos joues et nous plissons les yeux, blessés, comme des convalescents qu'on libère trop tôt. Le train qui nous emmènera ne part que dans 2h30. 2h30, qu'est-ce qu'on va faire? Allons visiter le parc? Nous sommes laids, sans grâce et sans humilité. Pâle de surmenage ou bien rouge d'un déjeuner hâtif, la pluie de Douai, le soleil de Nîmes, le vent salin de Biarritz ont verdi, roussi nos lamentables pelures de tournée, grand manteau cache-misère qui se targue d'un genre anglais. Nous avons dormi tout autour de la France, sur nos chapeaux avachis, sauf la grande coquette qui balance pompeusement trois plumes. Je sais pas pourquoi tout le monde me dit que je ressemble à Sarah, qu'est-ce que vous en pensez? Une gaie petite bourrasque houspille nos jupes, comme nous débouchons sur une place, et les cheveux oxygénés de l'ingénu livrent au vent leurs mèches ondulées. Elle crie, retenant son chapeau, et je vois entre ses sourcils et ses cheveux, le long de la tempe, une ligne rouge mal essuyée, le rouge d'hier soir. Et moi-même, hélas, je n'ai pas passé si vite devant la vitrine de l'horloger que le miroir ne m'ait montré mes secs cheveux ternes et ces deux ombres tristes sous les yeux et la bouche sèche de soif et la taille veule sous le tailleur marron. J'ai l'air d'un hanneton découragé, battu par la pluie d'une nuit de printemps. J'ai l'air d'un oiseau déplumé. J'ai l'air, mon Dieu, j'ai l'air d'une actrice en tournée. Et c'est assez dire. Voici le parc promis, une pelouse profonde. Un château endormi, des jacinthes sauvages. Une lumière tamisée, clémente au visage meurtri, impose la détente et le silence. Mais nous ne sommes pas bien ici. Tout y est trop beau. Rien ne vieillit une femme que de vivre à la campagne. C'est connu, dit l'ingénue dans un haussement d'épaule. Le soir va venir. Oh oui, allons-nous-en. Mes compagnons courent presque à présent. Nous savons bien tous que nous ne manquerons pas le train, mais nous fuyons le beau jardin, la noble oisiveté dont nous sommes indignes. Nous courons vers l'hôtel, vers la loge étouffante et la rampe qui aveugle. Nous courons pressés, bavards, avec des cris de volaille, vers l'illusion de vivre très vite, d'avoir chaud, de travailler, de ne penser guère, de n'emporter avec nous ni regrets, ni remords, ni souvenirs. Pourtant, grâce à ces souvenirs qu'une artiste de la belle époque donne ses lettres de noblesse à la vie de bohème. Publiée en 1913, l'envers du Music Hall est l'œuvre d'une grande romancière française dont le nom se cache encore derrière celui de son premier mari, Colette Willy. Pendant 10 ans, le journaliste Henri Gauthier-Villard, dit Willy, publie sous son nom les écrits de sa femme, Sidonie Gabrielle Colette. Mais l'auteur de Claudine n'est plus un mystère pour ses lecteurs. En 1906, elle divorce et découvre la condition de femme libre. Contrainte de subvenir à ses besoins, Colette, qui ne signe pas encore ses livres de son propre nom, s'engage comme artiste de Cafcons. Pendant 6 ans, jusqu'en 1912, elle part en tournée aux côtés d'un célèbre mime, Georges Wag, qui apparaîtra sous le nom de Brague dans ses écrits. À 33 ans, Colette devient l'une des premières femmes pantomimes, stripteaseuse, dirait-on aujourd'hui. À l'époque, ses numéros font scandale. Au Moulin Rouge, en 1907, elle embrasse sur scène sa compagne d'alors, Missy, marquise de Belleboeuf. Le préfet de police fait interdire la pièce. Au cours de sa vie tumultueuse, la romancière affiche une liberté de mœurs en avance sur son temps. Bisexuelle, elle se marie 3 fois et connaît une relation passionnelle avec un jeune homme qui n'est autre que son beau-fils. Mais c'est au théâtre dans les années 1910 qu'elle apprend à assumer ses désirs, désirs d'indépendance morale, intellectuelle, sentimentale, qui passent d'abord par la libération du corps sur scène. Ce soir, découvrons l'envers du Music Hall, ce journal de tournée où Colette rend hommage à ses partenaires. Publié l'année où elle se remarie et deviendra mère, le livre est aussi un adieu à ceux dont elle a partagé la misère et la grandeur. Ce soir, levons le rideau non pas sur la scène, mais sur les coulisses de la vie d'acteur. Partons à la rencontre de ces personnages oubliés, mimes, figurantes, danseuses de revue, qui ont fait la gloire des cafés-théâtres et que la nouvelle Colette de Jouvenel, devenue journaliste, salue désormais de l'autre côté de la rampe.
Oh, merci, merci! Hi, everybody! Je suis la maîtresse du cérémonie. Je suis Mademoiselle Kitten on the Keys. Petite chat sur la touche. Monsieur, musique, s'il vous plaît.
Retrouvons notre troupe un matin d'hiver au début des répétitions. L'ambiance est morne, chacun se souvient de ses débuts avec ses périodes de vaches maigres. Le ton général est familier, il est aussi celui des petites gens des faubourgs. Bientôt, grâce à l'art du mime, chacun retrouvera dans le silence sa part de dignité. Aucun de nous ne trouve grâce devant la lumière qui tombe du vitrage, verticale et froide comme une douche. Il est 9h du matin, l'aube des gens qui se couchent tard. Nous flânons au lieu d'abréger la répétition de notre mimodrame. Le compositeur, palestrier, blafard, le nez mauve, raconte pâteusement des histoires qui sont peut-être drôles, mais la cigarette éteinte qu'il mâche communique à ses paroles une redoutable odeur. Le poêle de la salle ronfle et ne chauffe pas encore. Nous épions tous la petite fenêtre de Mika comme des sauvages transis, espérant le lever splendide de l'astre. « Avec quoi qui chauffe, je me le demande, hasarde palestrier rêveur. Peut-être avec des bûches en papier journal qu'on serre dans du fil de fer. Je sais faire ça, moi, j'ai appris. » L'année de mon prix au conservatoire, chez une vieille dame qui me collait 3 francs pour y jouer des valses. C'est elle aussi qui m'a enseigné à encaustiquer les cuivres. J'ai pas perdu mon temps avec elle. À cette époque, pourvu que je bouffe. Palestrier contemple dans le carré de Mika ardent sa jeunesse indigente, le temps où son talent se débattait au fond de lui comme une noble bête affamée. Elle est si vivante en lui, sa jeunesse hâve et creuse. C'est comme moi, dit soudain Brague, bouffé. Les gens qui ont toujours eu de quoi ne se figurent pas ce que c'est. Je me souviens d'un moment où j'avais encore crédit chez le bistrot. Quand j'avalais mon verre de vin rouge, j'aurais pleuré rien qu'à l'idée d'un petit croûton frais pour tremper dedans. C'est comme moi, continue la belle Bastienne. Quand j'étais toute gosse, 15-16 ans, je tombais faible le matin à la leçon de danse parce que je ne mangeais pas assez. La maîtresse de ballet me demandait si j'étais malade. Mais je crânais et je lui répondais « C'est mon amant, madame, qui m'a fatiguée. » Un amant, comme si j'avais su ce que c'était. Elle levait les bras au ciel. « Ah, mon enfant, vous ne le garderez pas longtemps, votre porc de reine. Mais qu'est-ce que vous avez toutes dans le corps ?» Elle parle lentement avec une sagesse appliquée, comme si elle épelait ses souvenirs. Assise, les genoux écartés, la belle Bastienne s'écrase dans une posture de ménagère qui surveille la marmite. Son port de reine et son hardi sourire, elle les a jetés comme des accessoires de scène. Soudain, un accord plaqué, une gamme où s'accrochent des doigts gourds, nous émeuvent d'un frisson superficiel. Je reviens, comme mes camarades, d'un rêve amer. Brague est debout le premier. Les rudes conseils, les invectives nécessaires font en s'échappant de ses lèvres un bruit familier. Combien d'essais et d'échecs sur ces 3 visages de mime où l'effort pose un masque tôt brisé. Les mains obligées à parler, les bras un instant éloquents semblent se rompre soudain et font de nous, en retombant sans force, des statues mutilées. Il importe. Le but difficile à atteindre n'est pas inaccessible. Nos paroles de moins en moins pressées se détachent de nous comme les fragments d'une gangue ingrate, chargée d'un devoir plus subtil que ceux qui déclament les alexandrins. Nous avons hâte d'écarter de nos muets dialogues la parole, l'obstacle grossier qui nous sépare du silence parfait, rythmé, limpide, orgueilleux de tout exprimer et qui ne reconnaît d'autre appui que la seule musique. Passons d'une saison à l'autre. L'été suivant, la narratrice évoque le souvenir d'une matinée de canicule particulièrement pénible. Dans sa loge, l'artiste se maquille et attend l'heure de son entrée en scène. Par la porte entrebâillée, elle porte un regard plein de tendresse sur ses partenaires. Le moment venu, la magie du plateau opère un petit miracle. Un silence étrange règne dans nos cellules pleines. En face de la mienne, une porte ouverte permet que je voie le dos des deux hommes assis en peignoir de bain sale, muets et penchés sur la tablette à maquillage. L'ampoule électrique brûle au-dessus d'eux, rosâtre, anémique, dans la grande lumière de 3 heures. Une note aiguë, un cri perçant et prolongé, monte des profondeurs du théâtre. Il y a donc en ce moment sur la scène une femme qui, corsetée, sanglée d'une étroite robe longue, accomplit ce prodige de sourire, de chanter, de lancer vers les frises ce si pointu qui fait qu'on songe, la langue sèche de soif, à des citrons écorchés, à des groseilles mi-mûres, à toutes les choses acides, fraîches, vertes. Une huile trouble qui fleure le vieux pétrole, c'est ma vaseline méconnaissable, une crème couleur de beurre douteux, voilà ce qu'est devenu mon blanc gras. Le contenu du pot de rouge, liquéfié, pourrait servir à masquer, comme disent les cuisiniers, quelques pêches cardinales. Tant bien que mal, me voici ointe de ces graisses multicolores et poudrées. J'ai le temps de contempler, avant l'heure de la pantomime, mon visage, où reluisent sous le soleil les couleurs mêlées du pétunia violet, du bégonia, du volubilis bleu sombre. Mais l'énergie de remuer, de marcher, de danser et de mimer, où la prendre ? Le soleil tourne un peu et quitte l'une de mes deux fenêtres que j'ouvre grande, mais la coudoir brûle mes paumes et l'impasse sent le melon pourri, le ruisseau sec. Le timbre qui nous appelle sur le plateau trouble seul le silence. Je rencontre dans l'escalier des machinistes dépoitraillés et muets. Des figurantes en robe andalouse traversent le foyer sans autre salut qu'un coup d'œil féroce à la grande glace. Brague, à la torture dans le drap noir de sa courte veste et sa longue culotte espagnole, sifflote encore, par fierté, pour ne pas avoir l'air de clamser comme les autres. Un énorme garçon, rond comme un tonneau, dans son costume de cabaretier, suffoque et m'épouvante, s'il allait mourir en scène. Et pourtant les forces mystérieuses de la discipline, du rythme musical, l'orgueil enfantin et noble de paraître beau, de paraître fort, nous conduisent. Vraiment, nous jouons comme d'habitude. Le public, prostré, invisible dans la salle éteinte, ne verra rien de ce qu'il doit ignorer. Le halètement rapide qui dessèche nos poumons, l'eau qui nous inonde et noircit la soie de nos costumes, la moustache de sueur et de poudre collée qui virilise si mal à propos ma lèvre supérieure. Il ne devinera pas surtout qu'une horreur nerveuse me soulève à ne rencontrer, à ne palper que des mains, des bras, des joues, des nuques mouillées, des manches humides, des cheveux collés, des verres poissés, des mouchoirs en éponge molle et moi-même.
C'est à toi. Montre-leur de quoi on est capable, nous autres.
Je pense à ce que je te dis, le sourire, toujours le sourire.
Et ton papier.
T'es prête? Cheese.
C'est parti.
Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi. Au moins une fois par mois, je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai fait à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater Quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter, je cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois.
Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout, j'ai cet avoir. Je suis ce millionnaire.
Vous avez tout du gigolo,
mais j'ai gagné le gros lot.
Alors, cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous, plus près, encore plus près, là. Regardez-moi bien dans les yeux. Maintenant, embrassez-moi, plus fort, encore plus fort. Là, un baiser à la cannibale. Oh, c'est ça, ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter avec ce millionnaire. Je suis sûr qu'on ne doit pas s'embêter.
Colette.
Il me semble que je n'aurais pas seulement fait acte de bavardage, mais que j'aurais peut-être fourni à d'autres entravés, d'autres fatigués comme moi, que je leur aurais fourni un encouragement à penser un peu autrement, à feuilleter le passé d'une autre manière qu'elles n'ont l'habitude de le faire. Il y a pour le souvenir d'autres formes, Dieu merci, d'autres formes que le regret, et encore le regret, et toujours le regret, la merveilleuse possession qu'est le souvenir. Personne ne peut plus nous l'ôter.
Découvrons à présent dans cet univers de sueur et de paillettes une love story à l'anglaise. Au fil des pages, Colette développe un art du récit proche de la nouvelle. Avec sa façon de croquer les personnages et d'amener la chute sans qu'on s'y attende. Dans le chapitre suivant, elle ne se met plus en scène comme artiste. La narratrice se fait spectatrice et porte un regard plein d'empathie sur la jeune génération qui l'entoure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remarqué. Elle est moins jolie que Daisy, cette brune démoniaque, toujours en pleurs ou en fureur, dansant comme un démon. Elle plaît moins que la sournoise Edith, qui profère en français ingénument des énormités qu'elle comprend fort bien. Mais Glory, qui danse pour la première fois en France, retient mon attention. Elle est gentille et touchante, anonymement. Elle crie en descendant et en montant les deux étages, mais elle crie comme les autres, mécaniquement. Parce qu'une troupe de girls qui change quatre fois de costume entre 9h et minuit ne peut pas monter ni descendre les escaliers sans jeter des glapissements de peau rouge et des chants désordonnés. Les girls voyageuses ont fait de leur loge un campement de saltimbanques. Les crayons noirs et rouges roulent sur la planchette à maquillage, couverte ici d'un papier d'emballage, là d'une serviette trouée. Un courant d'air détacherait des murs les cartes postales retenues seulement par des épingles fichées de billets. Et ces petites filles qui s'en iront dans 2 mois laisseront moins de traces qu'une halte de Romanichel qui marque leur route par les brûlures rondes de l'herbe, par la cendre floconneuse d'un feu de bois volé. « Thank you », dit Glory d'une voix distinguée. « Le plaisir est pour moi », répond poliment notre camarade Marcel, actuellement ténor, mais qui dansera peut-être le mois qui vient, capable aussi de jouer le drame au Gobelin et la revue à Montrouge. Marcel attend sur le palier, comme par hasard, la troupe tumultueuse des girls. Comme par hasard, Glory passe la dernière et s'attarde 1 minute, le temps de fouiller, avec une maladresse gracieuse, dans le petit sac de bonbons acidulés que lui offre notre camarade. Je surveille les progrès lents de l'idylle. Il est jeune, famélique, ardent, décidé à ne pas crever, et tout ressemblant, malgré l'habit fatigué et la boutonnière en muguet artificiel, à un joli ouvrier roublard. Mais Glory le déconcerte par ses façons de petite étrangère. Avec une copine, une parigote de music hall, il serait déjà fixé. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais cette angliche, il ne sait pas comment la prendre. Elle lui plaît, elle l'agace. Quelquefois, il hausse les épaules en la regardant s'éloigner. Le long flirt impatient de ce petit français vif et volage, tandis que Glory s'y complaît. Elle s'émeut lentement, en fillette sentimentale. Elle l'appelle par son prénom « Ma sœur » et lui a donné une photographie d'elle en carte postale. Pas celle du faux bébé au cerceau, ni celle du gosse à la poule beau avec la culotte percée, oh non, mais la plus belle, celle qui montre Glory en dame du Moyen-Âge, coiffée du Hénin, une Glory tout à fait royale. Ils n'ont pas l'air gênés de ne pouvoir causer ensemble. Glory parle un peu français et dépense pour articuler quelques mots de notre langue une force inutile qui fait rougir ses joues et briller ses yeux. Le garçon, souple, fin l'empressement, l'humilité. Je l'ai vu baiser une petite main qu'on ne retirait pas, une menotte maigre, gercée par l'eau froide. Mais à la dérobée, il regarde Glory avec insistance et précision, comme s'il visait d'avance les places qu'il embrasserait. Elle, derrière la porte de sa loge refermée, chante pour qu'il l'entende et lui jette son nom « Ma sœur » comme elle lui lancerait des fleurs. Cela va bien, en somme. Cela va même trop bien. L'idylle quasi muette se déroule comme un mimodrame. Pas d'autre musique que la voix exubérante de Glory et guère d'autres paroles que ce nom « Ma sœur » que l'amour nuance. Après les « Ma sœur » éclatants et joyeux, un peu nasillés, j'ai entendu des « ma sœur » ralentis, coquets et câlins, exigeants. Et puis certains jours, un « ma sœur » si tremblant, si défait, qui suppliait déjà. Ce soir, je l'entends, je pense pour la dernière fois, car tout en haut de l'escalier, réfugié sur la dernière marche, je trouve une petite Glory toute seule, la perruque de travers, et qui pleure humblement sur son maquillage en répétant tout bas « Ma sœur !»
Suivant. Bonjour mademoiselle. Vous vous appelez comment ?
Douce.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous montrer ?
C'est méchant.
Ce que vous voulez, je peux vous chanter une chanson ?
Non, merci, non. Pour chanter, il y a ce qu'on appelle des chanteuses. Chacun sa spécialité.
Est-ce que vous pourriez nous montrer vos jambes, s'il vous plaît ?
Ouais, quand même.
On vous engage.
De retour à Paris, nous voici dans un nouveau théâtre en fin d'après-midi. Depuis des heures, la narratrice attend son tour pour répéter sa pantomime. Mais le numéro précédent, une danse des courtisanes, s'étire en longueur. La représentation prévue le soir même semble incertaine, car une rumeur circule parmi les artistes, ravivant toutes les espérances. La grève, bon Dieu, la grève ! On y pense, on en parle dans les coins. Les petites femmes de la prochaine revue, les tours de chant n'ont que ce mot-là à la bouche, chacun à sa manière. Il y en a qui crient tout bas « la grève », les matinées payées, les répétitions aussi, avec des figures embrasées, en levant leurs manchons comme un drapeau. Sur scène, la Pompadour ressemble étrangement, avec sa culotte noire, ses genoux nus au-dessus des bas roulés, à un jeune tambour de la Révolution. Le cœur des danseuses, immobilisé un instant, groupe autour d'elle 20 petites femmes muettes et excédées. Elles cherchent dans le noir le fauteuil d'où les surveille Monsieur le directeur. Elles attendent le cri qui les délivrera. Le « ça va bien pour aujourd'hui » jaillit d'un point noir de l'orchestre. Mais elles ont l'air d'attendre aussi autre chose. La grève, bon Dieu, la grève. Leur fatigue est presque agressive. À rebours des hommes, chanteurs et mimes, danseurs et acrobates, qui s'efforcent de conserver à leurs revendications un ton de discussion calme, les petites femmes du CAFCONS, mes camarades, se sont enflammées tout de suite. Et par rigote émotive, elles imaginent confusément, au seul mot de grève, la descente dans la rue, l'émeute, la barricade. Elles n'ont pas l'habitude. La discipline rigoureuse et simple qui nous régit ne connaît guère d'infraction. Sous le soleil bleuté de deux projecteurs, le plus laborieux des petits peuples s'est vite apaisé sur un mot du directeur. « J'aime pas les gueulards !» Ou bien « Un peu de calme, mesdames !» Où vous croyez-vous, dans un théâtre ? On les régente si facilement, ces abeilles pauvres et sans butin. Elles ont dit « Chic la grève !» comme elles auraient dit « On va gagner le gros lot !» sans y croire. À présent, elles y croient. Elles commencent à trembler d'espoir. Les terribles journées, les doubles représentations du dimanche et du jeudi et des fêtes semées tout au long de l'année recevraient leur salaire ? Mieux que ça, les services de midi à 6h quand on monte les revues seraient indemnisés? Et les nuits de coups de feu, les nuits redoutées où l'on répète en décor et costume jusqu'à l'aube, ce serait plus uniquement pour l'honneur de la maison? C'est beau, c'est inquiétant. Notre petit peuple a la fièvre. Le soir, dans les coulisses, on m'agrippe par la manche, on me questionne. N'est-ce pas que vous êtes pour la grève? Seule la Pompadour, une étudiante de 19 ans que je nomme aussi Cassandre, s'en fâche. La grève? Pour avancer à quoi? À engraisser les marchands de cinéma? Et pendant ce temps-là, quoi qu'on bouffera toutes les deux, moi et ma maman? Oh, il doit être au moins 6h15. Qu'est-ce que je fais encore là, à attendre mon tour? Il est trop tard pour travailler aujourd'hui. Les plus pressées, celles que le métier ramène ici à 8h, n'iront pas bien loin. Un plat du jour les attend à la brasserie du coin. Les autres se sauvent en courant dès le trottoir. J'ai juste le temps de passer chez moi. Retrouver une maman grognon, s'assurer que le gosse n'est pas tombé par la fenêtre ou ne s'est pas brûlé au poil et hop, on repart. On saute dans l'autobus, dans le métro, dans le tramway. Pêle-mêle avec les autres employés, modistes, cousettes, caissières, dactylographes, qui, elles, ont fini leur journée.
Allez, au suivant.
Mais laissez-moi passer, non, mais qu'est-ce que c'est que vous êtes ici,
Mademoiselle Malou Mila.
Mila Malou.
Oui, comme elle dit.
Oh, dites donc, hein, on n'a pas gardé les dindons ensemble. Et puis, il faudra un peu de recueil, s'il vous plaît.
Un peu de quoi?
Un peu de calme, un peu de recueil, quoi. C'est une chanson dramatique. Enfin. Piano n'est pas au diapason de l'orchestre.
Ah, écoutez, mademoiselle, voulez-vous passer, oui ou non?
Mais monsieur, je ne dis rien. Je cause avec la pianiste. Allez, vas-y, cocotte. Et u.
Pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quittons le théâtre et retrouvons la narratrice à sa leçon de danse. Ce jour-là, sa professeure, Madame Barouki, est absente, retenue ailleurs pour la création d'un ballet. L'artiste est accueillie par l'accompagnatrice, une pianiste de 26 ans, mère d'un enfant qu'elle élève seule. Découvrons ce personnage modeste et craintif qui n'envie en rien le train de vie des vraies actrices. Écoutons ce curieux monologue qui en dit long sur les coulisses du spectacle. Non, je n'ai pas fait de théâtre, mais j'ai été modèle avant d'avoir mon petit garçon. À un moment, il y a 3 ans, Madame Barouki me conseillait d'entrer au music hall, de danser. Mais je lui disais, je ne sais pas danser. Ça ne fait rien, me répondait-elle. Tu te mettras danseuse nue, comme ça tu ne te fatigueras pas à danser. Je n'ai pas voulu. Oh, c'est pas seulement pour ça. Une danseuse nue, comme on dit, n'en montre guère plus qu'une autre. Une danseuse nue, c'est toujours un peu égyptien. ce qui signifie 10 bonnes livres de ceinture en métal travaillé, 2 plaques de poitrine et des voiles à n'en plus finir. Non, c'est pas uniquement une question de convenance qui m'a fait refuser, c'est ma nature, de rester dans mon coin et de regarder les autres. Ici, là, on passe toute la journée, non seulement des dames du music hall, mais des actrices, des vraies, qui jouent au boulevard. Je dois dire qu'elles sont un peu dépaysées au début. Elles n'ont pas l'habitude de se déshabiller pour la leçon. Au bout d'une heure de travail, vous ririez de voir à la place de la dame chic une petite bonne femme tout en eau qui souffle, qui rage, qui jure un peu, qui se frotte les joues avec un mouchoir. Enfin, une femme ordinaire, quoi. Je n'y mets pas de méchanceté, je vous assure, mais ça m'amuse. Je fais mes petites études. Oh, sûrement non, ça donne pas envie de changer avec elle. Même en dehors des leçons, elle remue tellement. Il faut les entendre se désoler. Oh mon Dieu, je dois être à 5h30 chez la masseuse. Et à 6h, j'ai rendez-vous chez moi. Et mes 3 robes de scène qui m'attendent chez le teinturier. Oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais. L'autre jour, tenez, Madame Dorzia. Eh oui, Madame Dorzia elle-même disait très gentiment en parlant de moi à Madame Barouki. Cette pauvre petite qui me serine ma danse depuis 1h15, je voudrais pas être à sa place. Ma place, ma place, mais c'est celle qui me convient, qu'on m'y laisse, c'est tout ce que je demande. J'ai fait un peu la bête dans mon jeune temps, mais j'en ai été corrigée. J'en suis restée craintive. Plus je regarde les autres se démener, plus j'ai envie de rester assise, comme ça, avec mon petit garçon, tous les deux bien à l'abri derrière mon piano. Et puis ici, on ne voit que la peine que les gens se donnent. La lumière au théâtre, les paillettes, les costumes, les figures maquillées, les sourires, c'est pas un spectacle pour moi tout ça. Je ne vois que le métier, la sueur, la peau qui est jaune au grand jour, le découragement. Je sais pas bien me faire comprendre, mais mon imagination travaille là-dessus. C'est comme si j'étais seul à connaître l'envers de ce que les autres regardent à l'endroit.
On vous enverra un pneu.
Au suivant.
Mademoiselle Barbarina, alors qu'est-ce que vous attendez?
Voilà, voilà.
Allez, 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 dépêchons.
Si j'osais, si j'osais.
Allez où, mademoiselle?
Alors, tu me laisses insulter à présent.
Insulter?
T'as pas entendu? Il m'a dit on vous enverra un pneu.
Mais c'est pas une insulte.
Non, tu sais pas ce que ça veut dire, on vous enverra un pneu. Ça veut dire vous êtes un clou.
Hein?
Tout ça parce que je suis pas une chanteuse à voix. Parce que j'ai pas la bouche en cul de poule. Par rappelle quoi ce que je te dis, hein. Je ne pompe pas 12 heures la minute. Mais j'arriverai tout de même.
J'en suis sûr.
Et je te jure que quand je serai vedette, ce cochon-là me le paiera. À genoux qui viendra me demander. À genoux. Et j'y répondrai crotte, crotte, crotte. Vous avez été trop mufle, monsieur. Vous n'avez pas su me prendre. Quand la sève montait, quand j'étais encore un bourgeon. Et ben vous repasserez. Voilà.
Quelques mois plus tôt, une chanteuse russe a fait scandale et a quitté la troupe avec fracas, laissant derrière elle une pâle jeune fille qui lui donnait la réplique. Abandonnée, celle-ci est recueillie par Brague, qui lui offre un emploi de figurante et la surnomme « la laissée pour compte ». La vie d'artiste reprend son rythme entre grandeur et décadence. Depuis, la laissée pour compte vient s'asseoir tous les jours à 1h sur des fauteuils entoilés de l'Élysée Pigalle et attend. À l'appel de Brague, en scène les grandes étaïres! Elle gravit la passerelle qui enjambe l'orchestre et va s'installer devant une table de caboulot en zinc poisseux. Dans la pantomime en cours de répétition, elle sera sous une robe rose retapée, une soupeuse élégante de cabaret Montmartre III. On ne la voit presque pas de la salle, parce qu'on l'a mise tout au fond de la scène, derrière les chapeaux de ces dames de la figuration, immenses et minables. L'accessoiriste pose devant elle un verre vide et une cuillère, et elle s'accoude, son menton enfantin posé sur son gant sale. Elle ne bavarde pas en scène, elle ne se plaint pas du courant d'air sifflant qui glace ses jambes, elle n'a pas, comme la môme Myriam, ce regard malheureux, enragé et affamé, qui demande à manger, ni l'activité fébrile de Vanda la pondeuse, qui tire à chaque minute de sa poche une chaussette d'enfant troué ou une brassière en finette qu'elle coud en se cachant. La laisser pour compte est retombée dans l'oubli, comme si l'indifférence générale la délivrait du souci d'exister. Rien ne la presse de quitter ce lieu où elle dépérit lentement, paisiblement, avec une sorte de sécurité funèbre. Au premier plan, Brague se démène. Il sue vainement. Il s'use à vouloir communiquer sa foi, sa fièvre, à la petite grue en fourrure pelée, à la ravaudeuse obstinée. Il exige, ô folie, que Myriam et Vanda aient l'air de s'intéresser à l'action. « Je vous dis que c'est le moment où les deux types commencent à s'attraper. C'est tout ce que ça vous fait ? Grouillez-vous, mon Dieu, faites « Ah !» comme quand il y a une engueulade dans un bar, comme ça. » Après une heure d'effort, de cris et de fureur, Braque se repose, se récompense en travaillant sa grande scène où il lit la lettre de sa mère. La joie, la surprise, puis l'épouvante, enfin le désespoir, se peignent sur sa figure avec une telle intensité d'expression, un excès si pathétique que Vanda cesse de coudre et Myriam de battre la semelle pour regarder Braque pleurer. Petit triomphe quotidien, savoureux quand même. Pourtant, chaque fois, un gloussement léger, comme un rire qu'on étouffe, trouble cette minute émouvante. La fine oreille de Braque l'aperçut dès le deuxième jour. « Là, quelque selle en douille qui se gondole !» s'écrie-t-il. Pas de réponse. Et les visages mornes des grandes étaillires ne révèlent rien. Le troisième jour, il y a 40 sous d'amende qui vont tomber sur le « je sais bien qui » pour trouble de répétition. Mais Braque ne sait pas qui. Enfin le quatrième jour. « La laisser pour compte, est-ce que tu te paies mon citron ?» éclate Braque. « Décarcassez-vous et tâchez de mettre dans ce que vous faites un peu de vie tragique, de beauté véridique et simple, de sortir enfin des pantomimes à la mie pour arriver à quoi ? À faire se gondoler des numéros comme la laisser pour compte ?» Une chaise tombe et l'on voit surgir de l'ombre funèbre une laissée pour compte tremblante, pâle, qui chevrotte. « Mais monsieur Braque, je ne ris pas !» Je pleure. Quittons désormais Paris pour de nouveaux horizons. Lors d'une tournée en Italie, la troupe fait escale à Naples. Un jour de relâche, la narratrice assiste à une représentation dans une petite salle de second ordre, la Fenice, qui, hormis son nom, n'a rien à voir avec le prestigieux opéra de Venise. Alors qu'elle espère se divertir, une immense tristesse l'envahit devant ce parterre d'hommes avides de vulgarité. Nous échouons à la Fenice. C'est un cave-conce de dimension médiocre. Une publicité indiscrète lambrissa, murs, rideaux de scène, couloirs, d'affiches à la gloire d'une liqueur locale. Malgré deux projecteurs brutaux, l'ensemble demeure triste. Il y a tout juste trois femmes dans l'assistance, deux petites cocottes bourgeoisement fagotées et moi. Mais tout autour, que d'hommes. Que d'hommes. En attendant le lever de rideau, ils rient tout haut, chantonnent avec l'orchestre, se serrent les mains, échangent de loin des répliques. Il règne entre eux une familiarité de mauvais lieu. Mais au programme, que de femmes. Que de femmes. Que de Gemma la Bellissima, de Lorenza, de Lina, de Maria. Une tempête flatteuse accueille Gemma la Bellissima, molle danseuse égyptienne en gaze verte. On acclame, on accompagne sa vertueuse danse de dame toute nue qui s'excuse par un sourire contenu d'en montrer autant. Puis c'est Maria, une Italienne bientôt cinquantenaire, encore belle, habilement crépie. Je ne peux nier l'attrait de cette voix exercée qui commence à s'user et de ce geste excessif. Je ne puis discuter cet instinct de mime qui donne l'expression avec l'épaule, le creux des reins, la jambe grasse et alerte, et les mains surtout, les mains fatigables, qui pétrissent, soupèsent, caressent le vide. Tandis que la figure éreintée, brillante, séduisante, rit et ramasse d'un regard acéré toutes les convoitises de la salle. Lucette de Nice. J'attendais curieuse la petite française qui porte un si joli nom bébête. La voici, toute mince, miséreuse dans sa robe courte à grosses paillettes.
Elle habite ses villes et de toute la ville.
Elle chante des chansons de Paris rebattues. Où ai-je vu ce trottin fin et négligé, presque sans nez, qui a l'air de bouder, d'avoir peur? À l'Olympia peut-être? Ou à la Gaîté Rochechouart? Lucette de Nice. Ses yeux errants rencontrent les miens et le sourire quitte ses lèvres, semble remonter à ses grands yeux margés de bleu. Elle aussi m'a reconnu et ne cesse plus de me regarder. Elle ne pense plus à sa chanson. Je lis sur sa figure d'enfant pauvre le désir de me rejoindre, de me parler. À la fin de son dernier couplet, elle me sourit brusquement, comme quand on va pleurer, et s'en va très vite en se cognant le bras au portant. C'est triste, tant de femmes. On les voit trop bien, on pense à elles. Et puis je vois les poignets rouges sous la couche de fard, les mains durcies qui cuisinent, qui savonnent et qui balaient. Je devine les bas percés, les semelles feuilletées. J'imagine l'escalier visqueux qui mène à la chambre sans feu, la lueur courte de la bougie. En regardant celle qui chante, je vois les autres, toutes les autres. « Allons-nous-en, » dis-je à ma camarade. Dehors, il pleut toujours. Un vent furieux jette la verre sous la capote levée et la voiture rebondit, emportée par un petit cheval noir, fou, diabolique, qui semble courir à l'abîme.
C'était le beau temps des violettes, des violaines et des violettas. Missy toujours aimait Colette et Violette aimait Vita. D'autres violettes le dimanche déposaient, si je me souviens, pour dessous de violettes blanches sur la tombe de René Vivien. Et des violettes expéditives qui n'avaient pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives se faisaient amputer des seins. À qu'on leur permette, col dur et gourmet, la rose ou le ring, gourmette et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur. Quand l'enseigne son cercle mauve, c'est un boulevard Edgar qui naît. Elles retournent à leur alcôve mauve comme le petit jour qui naît. S'enivrer de duels illicites, de ces béguins nés en pension, dont les hommes se gaussent et s'excitent, ou bien de sanglantes passions. Mais qu'elles s'aiment dans le vacarme, où le secret qui les dissout, les guerrières cachent bien leurs armes et leur noir smoking en dessous. À qu'on leur permette, col dur et gourmet, la rose ou le ring, gourmet et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur. Un jour vient qu'elles sont des bougresses, des camionneuses de méchants goins, et voilà qu'elles pleurent leur jeunesse et les violettes de Vivien. Parfois je croise un de ces fous, vieille chasseresse l'œil aux aguets, mais il n'y a plus de cercle mauve sur le boulevard Edgar qui naît. Moi qui conserve malgré tout, derrière ma liberté, ma chaîne et mon noir smoking en dessous. le ring pour mettre des smoking. L'ombre ou bien le socle, smoking et mon oncle, l'impur sous l'impur, mon oncle est coldu.
Le lendemain, la narratrice retrouve cette comédienne qu'elle a reconnue sur scène. Lucette de Nice n'est autre que Gitanette, une jeune comédienne rencontrée quelques années plus tôt dans un cabaret parisien. À l'époque, elle se produisait dans un numéro de travesti en compagnie de son amie Rita, une blonde teinte, quelque chose comme une jeune blanchisseuse appétissante et canaille, se souvient la narratrice. Mais les duos, comme la jeunesse, comme le bonheur, ne durent pas au-delà de quelques saisons. Partageant les déboires de ses partenaires, Colette donne ici la parole à l'une de ces femmes qui aiment les femmes. Au-delà du charme un peu désuet des prénoms de pacotille, c'est toute la détresse d'une femme enfant qui éclate. Elle vivait tout haut, ingénument, dans la loge à côté de moi, la porte grande ouverte. Elle faisait un bruit d'oiseaux affairé et tendre, heureuse de travailler ensemble, de se réfugier l'une en l'autre, défendue l'une par l'autre de la prostitution désolante, de l'homme souvent méchant. Je songe à ces temps-là, devant Gitanette, morne et esselée, si changée. À vous, je peux vous raconter, vous êtes une artiste comme moi, comme j'étais, c'est-à-dire, parce qu'à présent, je ne suis même plus une femme. Je m'étais attachée à Rita. Elle était tout pour moi. Je ne pensais pas que ça pourrait jamais changer. L'année où c'est arrivé, justement, nous avions eu une vraie veine. Nous finissions à peine de danser à l'Apollo que voilà Salomon, l'agent, qui nous envoie un mot comme quoi nous faisions une danse dans la revue de l'Empiré. Une revue superbe, 1200 costumes, des girls anglaises et tout et tout. Moi, je n'étais pas folle de danser là-dedans. J'ai toujours peur que dans des revues où il y a tant de femmes, ça vienne en dispute, en rivalité, en potin. Au bout de 15 jours, la petite Rita n'était plus la même avec moi. Elle voisinait ici et là. C'était des amitiés avec l'une et l'autre. Et le champagne qu'elle allait prendre dans la loge de Lucie Desrosiers, cette grande jument rousse qui empoisonnait à boisson. Du champagne à 23 sous la bouteille, dites-moi si on peut avoir quelque chose de bon pour ce prix-là. La petite devenait chichi et insupportable. Un soir, est-ce qu'elle ne remonte pas dans notre loge en se vantant que la commère lui fait de l'œil? Je vous demande un peu comme c'était intelligent et gentil pour moi, n'est-ce pas? Je devenais triste, je voyais du mal partout. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Et puis un soir, c'est comme si j'avais tout vu de mes yeux. Leur rendez-vous, leur balade en auto, la chambre meublée de l'autre, le champagne sur la table de nuit, tout, tout. J'ai pleuré tout mon sou, et puis 8 jours après, elle m'a quitté. Et heureusement que je suis tombé malade à la mort. Sans ça, malgré que je l'aimais bien, j'aurais été la tuer. Cette fille simple parle tranquillement de tuer ou de mourir, en tournant toujours sa cuillère dans le café froid. Vous avez eu envie de mourir? Naturellement, oui. Seulement j'étais si malade, vous comprenez, j'ai pas pu. Et puis, vous êtes moins triste à présent? Non, dit-elle plus bas. Et même je voudrais pas être moins malheureuse. J'aurais honte de me consoler après que j'ai tant aimé. Chaque fois que je rentre dans ma chambre, que je revois les portraits de Rita, nos photos dans tous nos numéros, la petite table à coiffer qui servait pour nous deux. Chaque fois, ça recommence. Je pleure, je crie, je l'appelle. Ça me fait du mal. Et en même temps, je peux pas m'en passer. C'est drôle à dire, mais il me semble que je saurais plus quoi faire si je ne souffrais pas. Ça me tient compagnie.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Émilie Couette. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Les amoureux de Colette pourront retrouver l'envers du musical dans une adaptation et une mise en scène de ma camarade Daniel Lebrun. Ce sera au studio de la Comédie Française au printemps prochain. Bonne soirée et à la semaine prochaine.